voyage touristique à la mer Morte.
La communauté essène qui a, presque tout le monde est d'accord qu'il soit, soit les Esséniens qui ont commencé cette expérience, qu'ils ont mis sur place cette expérience, est née, a commencé au peu près de 203 avant Jésus-Christ à Damas. Autour d'un leader qui l'ont appelé le maître de justice. Et il s'agissait d'un groupe de personnes très radicales, aujourd'hui on dirait très de droite, pas de gauche, de droite, qui étaient bien pris par la situation politique, morale et spirituelle du peuple d'Israël. Ils étaient les côtés plus de droite des Esséniens qui étaient déjà de droite en soi. Donc vous pouvez comprendre comme ils étaient. Et ils se sont inspirés de l'Ancien Testament. 5 livres ont été les livres qu'ils ont lus le plus, ils se sont inspirés le plus. Les livres du Deutéronome, les livres des Psaumes, les livres d'Ésaïe, les livres de Jérémie et le livre de Daniel. Ces 5 livres ont été pour eux l'aspect inspirateur, le contenu inspirateur. Et ils se sont inspirés à un texte bien connu d'Ésaïe 42, « Préparez dans le désert la voie pour notre Dieu, aplanez les sentiers, les lieux. » Vous vous rappelez des textes. Et ils ont été là plus ou moins 25 années. Et vers les 170, ils se sont déplacés de Damas jusqu'au désert de la Judée, tout près de la mer Morte. Et là, ils ont mis ils ont bâti cette construction. Demain soir, on va voir une série de photos que j'ai fait, partie j'ai fait moi, partie on les a, je les ai trouvées dans des livres, quelques-unes je les ai achetées. Non, ils m'ont fait cadeau. C'est le professeur, le doyen de Sagunto qui m'a fait cadeau. Et je vais voir les photos de ces centres et comment il pourrait être en réalité, parce que maintenant on voit seulement des pierres. Ils l'ont reproduit, je ne sais pas s'ils l'ont reproduit en feuille de photo, ils l'ont reproduit en dessin. Et c'est très intéressant de voir quelle technique. Il y avait sûrement là un bon architecte qui a planifié le tout. Ce soir, on va voir un thème qui pour moi c'est très important, la contribution de la mer morte au livre, des rouleaux de la mer morte au livre de Daniel. J'ai choisi le livre de Daniel, on aurait pu choisir aussi le livre du prophète Ésaïe. J'ai choisi le livre de Daniel pour des raisons pratiques. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de discuter avec des théologiens sur la date du livre de Daniel. Vous savez qu'il y a une discussion sur le livre de Daniel. Maintenant, moi, depuis les années 1990, la chose a commencé à changer, au point qu'un professeur de théologie, le doyen de la faculté de Genève, il a réagi à la situation qu'il y avait dans la faculté, il n'a pu apporter aucun changement, il a démissionné. Il a écrit, il a fait une conférence de presse en disant « C'est plus possible maintenant de maintenir certaines idées après toutes les données que l'archéologie et la philologie nous donnent. » Et entre autres, il mentionne dans une lettre de 7-8 pages la position sur le livre d'Ésaïe, sur le livre de Daniel, que la théologie a sur ce livre. Et c'est pour cela que j'ai choisi J'ai eu à discuter avec plusieurs personnes sur la date du livre de Daniel. Je ne sais pas si tout le monde sait que ça suffit de lire dans l'introduction de plusieurs Bibles. C'est écrit que Daniel a été écrit dans l'année 160-165 avant Jésus-Christ. Et quand j'ai commencé à étudier ce thème-là, sur les rouleaux de la mer morte, on m'a demandé de présenter une conférence publique à un groupe de délégués d'une assemblée administrative de l'Union italienne. Et j'ai commencé à approfondir ce sujet-là. Si vous voulez, j'ai en anglais, je ne l'ai pas en français, un document de 19 pages que je peux vous l'envoyer, vous le pouvez lire dans à travers l'ordinateur. On n'a pas la possibilité de l'imprimer, si on pourrait aller l'imprimer. Où il y a toutes les données que j'ai faites sur cette recherche. Ce document que j'ai écrit a été amené à la Société biblique d'Espagne. Et l'éditeur de la maison de la Société biblique espagnole m'a demandé de réduire à 1500 mots pour faire une introduction au livre de Daniel dans la Bible archéologique qu'ils sont en train d'imprimer. Le document que j'ai écrit, c'est de 19 pages. C'est un peu long pour le mettre comme introduction. C'est plus long que le livre de Daniel même. Quels sont les contributions que nous avons de cette découverte, depuis cette découverte, au livre de Daniel et par extension à toute la Bible. Parce que vous verrez, les arguments vont s'appliquer à toute la Bible. Alors, quand ils ont commencé à se rencontrer à Damas, leur préoccupation, leur tension, c'était l'attente du Messie. Les temps prophétiques, les temps messianiques. Et ils étaient fortement concernés par la situation qu'il y avait en Israël. C'était depuis, pratiquement depuis la chute de Babylone, avec la chute de Jérusalem à cause de l'invasion babylonienne, que la Palestine n'avait pas eu plus l'indépendance totale. Les temps du roi et du royaume de David, c'était bien loin. Avant les Babyloniens, après les Médo-Persiens, après la Grèce, et encore il n'y avait pas Rome, mais Rome elle était là, prête à arriver. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à réfléchir, à se préparer, parce qu'ils attendaient la venue du Messie. Et en étudiant cet aspect-là, un des sujets pour lesquels ils ont dû se confronter, c'était la philosophie de l'histoire. Quel était l'essence de l'histoire? Vous savez que depuis l'année 300 environ, la Grèce était devenue l'empire qui dominait. Et la domination grecque, ce n'était pas comme la domination médo-persienne, qui était une domination politique et économique. Il demandait beaucoup de revenus, de taxes. La Grèce avait aussi cette nécessité. Mais la Grèce a contribué à une nouvelle compréhension de l'histoire de l'homme, de la philosophie, de la raison de vie. La Grèce est bien connue comme la patrie de la philosophie. La philosophie grecque a fait et a donné une grande contribution à l'histoire. L'essence de l'histoire, qu'il devait faire face là, à ce temps-là, c'était la conception que l'histoire, c'était comme quelque chose qui allait et qui revenait, allait et revenait, un peu comme ça. Vous voyez, ce qui est partira et va revenir. C'est un roue qui tourne. Tandis que eux, dans leur compréhension religieuse, l'histoire, c'était une ligne droite. Il y a un commencement, il y a une fin. Et cette conviction qu'ils avaient venait de leur connaissance de la Bible. Parce que la Bible a une autre vision de l'histoire. La vision de l'histoire de la Bible, c'est une vision qu'il y aura un doute final, une fin. Et l'histoire, c'est une ligne droite qui continue jusqu'à la fin. Demain soir, on va lire quelques documents qu'ils ont écrits, leur interprétation. Un commencement et une fin. Et en étudiant, en se préparant à la venue du Messie, ils se sont rendus encore plus convaincus que ce qui était en train de dominer comme pensée, comme philosophie, n'était pas acceptable. Ils se sont séparés du monde pour ne se faire pas contaminer, pour être prêts à accepter la venue du Messie et pour préparer la voie à la venue du Messie. Je vais vous faire voir maintenant, j'ai mis sur le PowerPoint quelques photos de personnes qui ont travaillé en étudiant les documents. Ça, c'est en italien, je ne l'ai pas traduit, mais je vais l'expliquer. C'était couvert de la photo. Il y a eu 5-6 personnages qui ont donné une contribution fantastique à la compréhension de cette grande découverte. Le plus renommé, c'est Emmanuel Toff. Il est allé à la retraite il y a 2 ans. Avant, il a été pendant 17 ans, non plus, presque 20 ans, il a été directeur du sanctuaire des livres où il y a tous les rouleaux conservés à Jérusalem. Et j'ai eu le plaisir d'être en correspondance avec lui parce que j'avais étudié quelques livres qu'il a écrits. Il est spécialiste dans l'Ancien Testament en grec. Il est reconnu comme l'autorité numéro 1 au monde pour la Septuaginta, la Septante. La Septante, c'est le nom qu'ils ont donné à la Bible traduite de l'hébreu en grec. Et je lui ai demandé, parce qu'en étudiant ce livre, il apporte aussi beaucoup d'opinions. Il exprime son opinion, mais toujours il est en discussion avec les autres. Je lui ai demandé, selon vous, quelle est la date, quelles sont les années dans lesquelles la traduction de la Bible de l'hébreu au grec a été faite? Pourquoi? Parce que la Septuaginta a tous les livres de l'Ancien Testament, plus la dernière. Il y a un appendice avec certains livres que nous connaissons comme avec le nom des apocryphes. Mais la division des livres, comme nous l'avons maintenant dans la Bible, vient de la traduction grecque de la Bible. Les livres de Moïse, les écrits et à la fin les prophètes. Lui, je lui ai écrit, j'avais trouvé dans quelques documents son adresse e-mail, je me suis dit, il ne va pas répondre. Comment c'est possible? Moi, je suis un parfait inconnu. Il va me répondre à moi. Mais après 2 jours, j'ai trouvé son email. Moi, j'avais écrit une 20aine de lignes dans lesquelles je faisais aussi des appréciations pour son travail, pour les livres que j'avais lus, pour sa position, pour ce qu'il avait fait. Parce que lui, il a été un de ceux qui, dans les années 1985-86, il s'est battu pour que les documents de la mémoire soient rendus publics. Parce qu'ils étaient là sous la poussière. Ils les ont mis dans des conteneurs et ils étaient fermés. Il m'a répondu après 2 jours en disant 5 mots. Nous savons depuis les 320 jusqu'à l'année 200. Donc, la traduction de l'hébreu en grec a pris plus ou moins 120 années, du 320 au 200 avant Jésus-Christ. Lui, maintenant il a la retraite, mais il est encore dans les comités responsables des documents de la mer morte, a été un des plus éminentes autorités. Une autre personne, c'est Florentino Garcia Martinez. Peut-être c'est l'auteur du livre que vous avez, Roger. Lui, il a publié tous les documents à fur et à mesure qu'ils venaient à être étudiés et mis ou en photo ou transcrits de la mer morte. Il est d'origine des Pays-Bas et il vit à Amsterdam. L'autre personnage très important, c'est James Van Der Kamp. Il a écrit beaucoup de livres sur les documents de la mer morte et il a écrit aussi l'encyclopédie Qumranique, où tous les thèmes sont là, sur son trois volumes, sur la mer morte. Un autre très important personnage, c'est Martin Engel. Lui, il a étudié beaucoup les questions liturgiques et culturelles qui concernaient cette communauté. Les bains rituels, les credos qu'ils avaient, comment ils pratiquaient leur foi, quelles étaient leurs priorités. Les plus jeunes de ces personnages qui font partie de maintenant il y en a deux, trois nouveaux, c'est Gary Cromachy, qui est professeur aux États-Unis. Lui, il a écrit un gros volume en anglais, La doctrine des rouleaux de la mer morte. Quelles sont les doctrines fondamentales qu'on comprend en étudiant leurs documents, pas la Bible, leurs documents, le document des Esséniens. Il y a un autre personnage que je n'ai pas trouvé une photo ce matin dans mes documents. Je pouvais aller sur Internet, je l'ai trouvé. C'est James Cross, qui a été président, doyen de la faculté de théologie à la Harvard University. Professeur de théologie, professeur d'Ancien Testament, professeur de langue sémitique. Ces cinq personnages ont travaillé beaucoup pour publier les documents de la mer morte. Il y en a d'autres, je disais, qui sont nouveaux. Et il me faut me mettre au jour pour cela. Les études qui ont été publiées nous mettent au courant que cette communauté avait quatre priorités fondamentales. L'attente messianique, la vision apocalyptique, le sens de l'histoire et la vision de l'avenir, et la compréhension de la signification de la vie humaine. Jusqu'à l'année 25 avant Jésus-Christ, ils étaient complètement ciblés avec la compréhension du sens de la vie que nous avons aujourd'hui, la mort et la résurrection. Vers la fin, quelques décennies avant la venue du Christ, ils sont entrés en contact avec la philosophie grecque, avec Philon surtout. Vous savez qui était Philon? Philon était un philosophe hébreu, grec-hébreu. Il vivait à Alexandrie d'Égypte et il a eu un grand impact dans la culture et la philosophie juive. Et ils ont accepté, vers la fin des premiers siècles avant Jésus-Christ, la théorie de l'immortalité de l'âme typique du monde grec. Ici, je vais vous faire voir maintenant deux citations, une de Van Der Kamp. Daniel, avec le premier Enoch et le livre des Jubilés, n'a pas seulement été trouvé en plusieurs exemplaires, mais aussi exercé une influence significative sur la littérature de la secte en général. Nous pouvons dire sans hésitation que la forte tension apocalyptique de ces mouvements vient de ces prophètes. Ici, on pourrait déjà prendre une conclusion. Si les mouvements des Esséniens naissent plus ou moins vers la fin du 3e siècle et commencement du 2e siècle, 204-205, les données ne sont pas toutes les mêmes, vont de 205 au 200. C'est la période à Damas. Et ils se sont inspirés avec ces 5 livres de la Bible que je vous ai mentionnés, et Daniel a cette importance, ça signifie qu'au 200 avant Jésus-Christ, Daniel était déjà là. Ce n'est pas possible de dire que Daniel a été écrit 164 avant Jésus-Christ. En plus, on a trouvé, et cela c'était un archéologue qui a travaillé avec Roland Deveau, parce qu'après la découverte, le professeur de l'Institut public de Jérusalem, Roland Deveau, il a été nommé responsable de la gestion de cette découverte. J'ai connu en Sicile, à Palermo, un archéologue qui a travaillé avec Roland Deveau, et lui, il disait dans une conférence que parmi les documents, on a découvert aussi 2 livres de l'Ancien Testament en grec, l'Exode et le livre de Daniel. Donc, si dans les périodes où ils étaient très, très occupés à comprendre leur philosophie de l'histoire, leur attente messianique, Daniel était un livre important pour eux, et s'il y avait aussi une copie en grec, signifie que la traduction en grec avait été déjà faite. Et si Emmanuel Toff, en m'écrivant, il dit, nous savons du 320 jusqu'au 200, ce n'est pas possible qu'elle soit été écrite avant les Grecs de l'hébreu et après traduit en grec. C'est un contresens. Maintenant, je vais vous souligner un peu quelles sont les critiques qu'on avance contre le livre de Daniel. Pourquoi, pour la plupart des savants, des théologiens, depuis les 1820 jusqu'au 1970, la plupart, maintenant il y en a beaucoup qui font marche en arrière avec ces découvertes, mais il y a encore une bonne partie des théologiens qui disent que Daniel a été écrit dans l'année 164. Quels sont les arguments? Je vais vous mettre un peu les arguments qu'ils ont. Premier, l'auteur a présenté des prophéties, mais il a présenté des prophéties et des récits historiques qui ne sont pas fidèles à l'histoire qu'on connaît. Donc, il ne pouvait pas vivre dans le temps de Nabucco, de Médio-Perse et Grèce, il est vécu après. Deuxième argument, là, c'est la conclusion. Alors, les prophéties qu'il a écrites sont, comme on disait en latin, vaticinium ex eventum. Vous comprenez ce que ça signifie? J'écris quelque chose maintenant, quelque chose qui est arrivé, mais je l'écris comme j'étais en train de l'écrire avant que les événements arrivent. Donc, j'ai fait une prophétie, mais les effets sont déjà arrivés. C'est pour cela qu'on fait une prophétie après que les faits que je prophétise ont été déjà accomplis. Alors, maintenant, on va voir les critiques. Quelles sont les critiques principales? Première critique. Le livre de Daniel, avec le livre d'Esdras, n'est pas seulement en hébreu. Il y a une partie en hébreu et une partie en araméen. Les chapitres 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont en araméen. Les chapitres 1 et les chapitres 8 jusqu'à la fin sont en hébreu. Pourquoi cette réalité est un argument pour les critiques? Parce que l'araméen, c'était la langue la plus répandue en Palestine au IIe siècle. Et vu que c'était la langue plus répandue et est écrite en araméen, ne pouvait pas être au VIe siècle, mais au IIe siècle. Deuxième argument, il utilise, Daniel, dans son livre, surtout au chapitre 2, au chapitre 3, des instruments musicaux qui étaient typiques du monde grec. Vous savez l'histoire du chapitre 3, Nabucco fait construire une grande statue et il donne l'ordre que quand les instruments musicaux et les chapitres donnent la liste des instruments jouent, tous doivent prosterné devant la statue. Ces instruments étaient des instruments grecs. Alors, ils ne pouvaient pas avoir été écrits au temps de Babylone parce que la Grèce n'était pas encore arrivée. Ça, c'est l'argument. Troisième, Il nom Daniel des personnes que l'histoire n'a pas mentionné. Par exemple, Darius le Mède. On a Darius le Grand qui c'était persien, mais pas Darius de la Mède. Il y avait l'empire médo-persien, vous savez. Mais Darius le Mède ne résulte pas dans aucun document. Ne résultait pas. Et la même, c'est pour le fils du roi Nabucodonosor, dont on parle au chapitre 5, qui était Belsazar. Belsazar n'était pas dans les documents qu'on avait les deux siècles passés. Et si on n'a pas ce nom, pourquoi Daniel l'a mis? Daniel ne connaissait pas les faits des premières personnes. Il a écrit plusieurs siècles après, et l'histoire n'était pas bien claire. Autre argument, il présente des miracles incroyables. Des hommes qui marchent dans le feu, Daniel qui va dans la cave des lions, la fosse des lions, ça c'est de la mythologie, ça c'est de la fantaisie. Enfin, il présente son temps comme s'il était tout dans le futur, et la prophétie, pour certaines, surtout à partir de Spinoza, Benedetto Spinoza, comment on s'appelle Spinoza ? Benoît Spinoza, c'était le premier qui a critiqué fortement les messages bibliques prophétiques. La prophétie n'existe pas. Personne ne peut écrire quelque chose qui va vers le futur. Ces 5-6 arguments sont les fondamentaux. Il y en a d'autres, mais de relevance mineure. Quelle est la réponse à ces critiques que nous trouvons à travers la découverte de la mer morte? Et quand j'ai étudié cette chose-là, c'était une contribution très intéressante et très forte. Ok, il y a un autre point. Le Messie à venir est en réalité un prêtre de son temps. Il y avait un prêtre qui s'appelait Onias le troisième, qui a été tué au temps d'Antiochus. Il a été un martyr. Et ils ont pris, Daniel aurait pris ces personnages comme le Messie qui devait mourir pour son peuple. Avec cet argument, si on les accepte, Daniel n'est pas un prophète. C'est quelqu'un qui dit des mensonges. C'est faux. Mais si Daniel c'est faux, pour quelqu'un qui croit même seulement en Jésus-Christ, il y a un problème. Parce que Jésus-Christ a parlé de Daniel comme un prophète. Vous vous rappelez, Matthieu 24, 15, faites attention à ce qui a écrit Daniel, le prophète. Et c'est Dieu même qui est faux. Alors, quelle est la contribution qui vient de cette découverte? Et maintenant, je vais, dans cette deuxième partie, vous donner une série d'arguments. Et après, la dernière diapo sera la réponse qu'on a aujourd'hui pour Darius le Mède et pour Belsazar. Premier argument. Nous avons déjà vu, le livre de Daniel a eu une grande influence sur pour la naissance de cette communauté. Deuxième argument. On a découvert 11 chapitres du livre de Daniel tout complet, dans des rouleaux où il y avait tous les 11 chapitres. Le 12e chapitre, on l'a trouvé un morceau dans un document qui s'appelle le Florilegium. Mais on a trouvé 8 copies du livre de Daniel. Et si c'est vrai ce que m'a dit cet archéologue que j'ai connu à Palerme, en Sicile, qui disait qu'il y avait aussi une copie du livre de l'Exode et du livre de Daniel en grec, sont 9 copies. Donc, il y avait pas mal de copies. Ça signifie que Daniel n'était pas méconnu. Il y avait pas mal de choses. Et plus que cela, il y avait la dernière ligne, 60 petits fragments de ce livre. 70. Troisième argument. Et ça, c'est le plus important. Et ça, pour moi, c'est déjà une réponse. Les moines, on dit les moines, oui, c'est pas féminin, moine, non. Comment on dit féminin? La nonne, oui. Les moines ont écrit, nous avons eu la première soirée, plus nous avons maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y a tous les fragments. Il y a, quand on a visité les grottes, on a trouvé, il y avait déjà des jarres rompues, il n'y avait rien plus. Quelqu'un avait déjà fait des visites là-bas. Mais ce qu'on a trouvé, c'est mal. 900 rouleaux, 930 rouleaux. C'est une belle bibliothèque. Et les grands archéologues, j'ai oublié le nom maintenant, il a écrit la plus grande découverte des manuscrits jamais réalisés comme dans l'histoire. Alors, la chose importante, c'est que les moines qui étaient à Qumran, ils n'ont pas, on l'a vu hier soir, ils n'ont pas seulement écrit des copies de la Bible, ils n'ont pas seulement copié la Bible. Ils ont aussi écrit beaucoup de documents à eux. Hier soir, on a vu qu'ils ont écrit des commentaires, ils ont écrit des documents historiques, politiques, des règles. Et la plupart de ces documents sont en araméen et il y a aussi en hébreu. Et ils ont utilisé pour écrire leurs documents la langue de leur temps, qui c'était l'araméen et l'hébreu du deuxième siècle. Et là, la confrontation, c'est frappante, le contraste, parce que l'araméen et l'hébreu du livre de Daniel n'est pas l'araméen du deuxième siècle. C'est l'araméen du sixième siècle. C'est l'araméen aristocratique de la Médiopèse du cinquième et sixième siècle. Alors, vous savez que la langue change peut-être très vite maintenant plus que dans le passé, parce que maintenant il y a une globalisation totale. Et ça, c'est un document très fort. Et c'est là, c'est une des premières choses qui est venue. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Roland Deveau s'est rendu compte que sa théorie libérale, très, très, très libérale, avait des difficultés avec cette découverte. Il a préféré ne pas publier. Même l'hébreu du temps des Maccabéens et l'hébreu de la Bible de Daniel, c'est pas le même hébreu. L'hébreu de Daniel, c'est le même hébreu des Juifs qui sont allés à l'île d'Éléphantine, en Égypte, quand il y avait l'avancée des Babyloniens vers Jérusalem. Ils se sont installés là, ils ont vécu là pendant moins de 200 ans, et ils ont laissé des documents en hébreu qui sont l'hébreu qu'il y a en Daniel. Donc c'est l'hébreu du temps de Daniel. On pourrait déjà s'arrêter là, parce que ça c'est un argument. Je ne sais pas si pour vous c'est clair. La langue, aujourd'hui, c'est un des critères pour étudier des datations, pas à long terme, mais à court terme. Aujourd'hui, on a des mots nouveaux. Et un des plus récents, pour ceux qui ont les téléphones mobiles, c'est app, les apps, les applications, les computers, les disques durs. En anglais, on dit l'hard disk. Je ne sais pas si en Belgique vous utilisez disque dur ou hard disk. Qu'est-ce que vous utilisez? Disque dur, parce que les Français veulent être bien fiers de leur langue. Mais on utilise, en italien on utilise hard disk, en allemand on utilise hard disk aussi. Ça c'est un argument très 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 important. Il y a aussi un dernier manuscrit, les quatre coups Daniel Si, que c'est un hébreu très archaïque, plus ancien. Les documents disent plus anciens des textes masorétiques. Alors, ce deuxième argument est très, très important. J'espère que pour vous, je me suis expliqué suffisamment clair. Alors, ça, c'est les grottes qu'on a trouvées. Ça, c'est la deuxième grotte, en haut à gauche. Là, Et ici, c'est à l'intérieur, c'est la grotte numéro 4, et ça, c'est la grotte numéro 6, où on a trouvé les rouleaux sur Daniel. On continue. Troisième argument. Les livres de Daniel et son auteur sont mentionnés dans le rouleau de la guerre, qui est un document suffisamment récent, 50 avant Jésus-Christ, dans le rouleau, dans la prière des Nabonides, qui est datée 75 avant Jésus-Christ, mais surtout dans le document de Damas, 205-170 avant Jésus-Christ. Si Daniel, comme libre, comme prophète, il est déjà mentionné, ça veut dire quelque chose. Encore, dans les livres d'Enoch, qu'on a trouvé en plusieurs copies là, sont mentionnés les livres de la Bible, presque tous. Hein? De l'Ancien Testament, bien sûr. Ça signifie qu'il y avait déjà, même s'il n'y avait pas, on a dit hier soir, étaient des rouleaux. On n'était pas un livre comme aujourd'hui. Ici, j'ai un livre, imaginez, c'est pas la Bible. C'est la Bible, on l'a tous là, il y a des Bibles encore plus petites que ça. C'était des rouleaux, mais dans les livres d'Enoch et dans les Siracides, ou l'Ecclésiastique, je ne sais pas comment on dit en français, il y a la mention de plusieurs livres, también de Daniel, aussi de Daniel. Autre argument, soit Flavius Joseph, soit le Nouveau Testament, que les écrivains du Qumran considèrent Daniel un prophète, inspiré. Par exemple, un des livres qu'ils utilisaient beaucoup, c'était le livre des Jubilés. Mais jamais ils mentionnent les Jubilés comme un texte inspiré. Tandis qu'ils considèrent Daniel un prophète inspiré. Et si nous considérons cela à partir de l'année 200, vous comprenez l'importance. Alors, je disais tout à l'heure, il n'y a pas seulement des Bibles, il y a beaucoup de commentaires. Et les commentaires sur Daniel sont des commentaires comme sont bien, comme ils considèrent Daniel, comme ils considèrent l'Exode, comme ils considèrent le livre des Psaumes, comme ils considèrent les livres d'Ésaïe ou de Jérémie. Il n'y a pas un décalage d'importance qu'ils donnent à l'un vers l'autre. Au contraire, Daniel, c'est presque un des plus considérés. Et maintenant, je viens au dernier argument. La question de Belshazzar et la question de Darius le Mède. Sur cela, il y a eu la bataille plus dure contre l'île de Daniel. Or, dans les années 1960, et dans les années 75, deux très importants documents ont été traduits. Un, c'était la chronique de Nabonidus. La chronique de Nabonidus, aujourd'hui, vous pouvez la trouver traduite sur Internet, complète. A été traduite environ vers les années 50. L'autre, c'était les cylindres de Cyrus, les rois des Persiens. Ces deux documents ont été découverts, un vers les années 25 et l'autre vers les années 1915, plus ou moins. Ont été traduits 50 et 60, 1950 et 1960. Dans ces deux documents, il y a des choses très intéressantes qui nous donnent une démonstration en plus que Daniel ne pouvait pas, l'auteur du livre de Daniel ne pouvait pas vivre au deuxième siècle. Parce qu'au deuxième siècle, la chronique des Nabonides et les cylindres de Cyrus n'étaient pas encore été découvertes. Il était en seule vie à Babylone et à Ninive. Ils ont été découverts siècle après. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces deux documents? Voilà. Ici, sur la colonne gauche, vous avez la des phrases prises dans les documents de Cyrus, dans les cylindres de Cyrus et dans la chronique des Nabonides. Et dans la partie droite, vous avez les textes bibliques. Daniel connaissait la réalité de son temps comme est écrite dans les cylindres de Cyrus et dans la chronique des Nabonides. Nabonide, qui était Nabonide? Vous savez qui était Nabonide? Nabonide était le beau-fils de Nabucodonosor. Nabucodonosor, il semble, n'avait pas de fils mâle. Il avait une fille, ou plus d'une fille, et un de ses beaux-fils, c'était Nabonide, qu'il était roi. Mais Nabonidos était un homme très, très mystique. Et à certains points, il a décidé d'abdiquer son royaume à son fils Belsazar. Et c'est dans la chronique de Nabonide qu'il y a le nom Belsazar. Les critiques qui, pendant deux siècles, ont critiqué la date de l'île de Daniel n'avaient pas sous les mains ces documents-là. Vous comprenez? Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une autre considération à faire à travers la Bible. Vous vous rappelez quand il y a les festins à Babylone, il y a un morceau de main qui est écrit dans les murs? Vous vous rappelez? Alors ça, c'était la dernière nuit de Babylone. C'était environ vers la fête du Nouvel An à Babylone. Le roi Belsazar est épouvanté pour ce qu'il voit écrit. Il n'arrive pas à comprendre les significations. Sa mère ou sa grand-mère lui dit, il y a dans ton royaume un homme très capable. Autant de ton père, qui était son grand-père, Nabucodonosor, il a été capable de dévoiler des mystères. Appelle-lui, parce qu'en lui, dit le texte, il y a l'esprit de Dieu puissant. Et avant que la mère lui dise cela, il dit, si quelqu'un est capable d'expliquer ce qu'il a écrit, il sera le troisième dans le gouvernement de l'Empire. Pourquoi le troisième? Un qui veut donner honneur à une personne, il ne mentionne pas troisième, il le mentionne après lui, deuxième, comme c'était dans le cas d'Assuero en Perse, au temps d'Esther. Belsazar n'était pas le premier, il était sous la régence, sous la royauté de son père Nabonidus. Et lui, il était le deuxième, et il donnait la troisième place à quelqu'un qui était capable de déchiffrer. Or, ça, c'est quelque chose qui démontre bien clairement que Daniel connaissait la réalité politique, historique de Babylone. Et si vous voulez, je vous envoie ces documents de 18 pages où il y a 7 paragons et c'est très intéressant. Vous voyez, il y a 1, 2. À gauche, c'est le texte ou de la chronique de Nabonide ou du cylindre de Cyrus. Et à droite, il y a les textes bibliques. Et plus que cela, il y a grand-chose qui peut nous démontrer que Daniel connaissait bien la réalité dans laquelle il vivait. Et une chose qu'il ne pouvait pas connaître, s'il allait écrire ou il y avait des tablettes. Il y avait aussi des passe-mains, mais ce n'était pas encore bien partout répandu. Ça, c'est pour moi une preuve très importante que le rouleau de la mer morte dans ce document-là n'est pas beaucoup, sauf qu'il y a la prière de Nabonide qui mentionne la chronique de Nabonide. Alors, Yann Liam, ça c'est quelque chose externe à la cette découverte, mais qui donne une contribution très forte. Donc, pour terminer, nous avons vu la première soirée comment la contribution en document biblique que nous avons de cette découverte. Hier soir, nous avons vu qu'il y a là tous les livres de la Bible, sauf les livres d'Esther. Ça nous démontre que la Bible n'a été pas complétée. Il y a quelqu'un qui arrive à dire au temps de la venue du Christ. Déjà, au moins 200 ans avant Jésus-Christ, il y avait tous les livres de la Bible. Demain soir, on va voir quelque chose en plus. Mais ce soir, déjà, on a vu. Ce soir, à travers une étude du cas du Daniel, qu'on peut appliquer à toute la Bible, nous voyons que cette découverte nous a apporté des textes bibliques qui avaient une écriture, une langue, un alphabet, qui n'était pas l'alphabet du XIIe siècle, mais c'était l'alphabet du 5e, 4e et encore plus ancien. J'ai perdu les documents quand j'ai environ les années 87-88. L'université de Tel Aviv, on pourrait les retrouver, ça suffit d'aller à Tel Aviv. L'université de Tel Aviv a publié un document sur les auteurs ou l'auteur du Pentateuque. Là, il y a tout un débat sur les champs théologiques et le Pentateuque a plus d'une source. Et ces documents de l'Université de Tel Aviv disaient que le Pentateuque a une seule plume qu'il a écrite. Et que c'était le document sacerdotal. C'était Moïse pour nous. Pour la Bible, c'était Moïse. Pour Jésus, c'était Moïse. Pour l'apôtre Paul, c'est Moïse qui a écrit cela. Mais cette découverte, ce soir, nous dit, l'est dit pour Daniel, et je conclue, que le livre de Daniel n'a été pas écrit avec un alphabet, une langue du 12e, mais du 5e, 6e siècle. Donc Daniel a été écrit dans le temps où le livre même dit qu'il vivait les prophètes, 5e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a dans des livres d'introduction à la Bible, il y a deux professeurs de l'université baptiste des États-Unis qui disent que le livre de Daniel a été écrit du 555 au 530 avant Jésus-Christ. Ça, c'est la période, selon eux, mais ce n'est pas là le problème. Le problème, la chose importante, que ce n'est pas un livre écrit au deuxième siècle. Ça, c'était le but de cette conversation ce soir. Demain soir, on va étudier l'essence de l'histoire qu'on découvre dans les documents que les Esséniens ont écrits en commentant Daniel et d'autres livres de la Bible. Merci.